Bonsoir et avant tout meilleurs vœux à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je crois qu'on va commencer l'année en beauté avec une conférence de Pierre Gillis que je crois que vous connaissez tous ou à peu près tous. Vous savez tous qu'il est physicien et qu'il a enseigné ici à l'université, qu'il s'est aussi impliqué dans l'administration de l'université et qu'il s'est toujours intéressé aux questions de philosophie et d'histoire des sciences. Il a des compétences très variées et il est également, et ça aussi à ce titre, non seulement un connaisseur de Marx, mais co-rédacteur en chef des cahiers marxistes depuis de très nombreuses années. Donc, Il maîtrise particulièrement le sujet et donc je lui cède tout de suite la parole pour nous parler aujourd'hui de Marx entre science et révolution.
Juste un petit mot pour effectivement me dire que le titre général du cycle, j'y suis pour rien, 19e siècle quand l'éclectisme devient un art, c'est à Anne qu'on le doit. Et je me suis dit tout compte fait que peut-être de manière plus précise, quand on pense à l'éclectisme, évidemment, c'est pas tout à fait l'image de Marx qui vient à l'esprit, mais que quand même, l'autre titre, ça c'est de moi, Marx entre science et révolution, et je me dis finalement, c'est sans doute une forme d'éclectisme qui en vaut bien une autre. Et tant qu'à être éclectique, celle-là, évidemment, elle brasse large, comme disait Anne en commençant. Alors, essentiellement, pourquoi peut-on parler d'éclectisme à ce moment-là? Essentiellement parce que, si vous voulez, aujourd'hui, quand on pense aux domaines de connaissances qui sont impliqués ou concernés par ce sur quoi Marx a travaillé, on tombe sur effectivement des disciplines différentes. Donc c'est une autre manière aussi de parler d'éclectisme. Mais ça fait précisément partie du sujet dont je veux parler aujourd'hui. En fait, quel est l'objet d'étude de Marx? C'est la société et c'est l'histoire, comme un tout. Et évidemment, ce genre de préoccupation-là, ça englobe l'économie, la sociologie, la politique. Et c'est seulement après, si vous voulez, que le développement des sciences humaines sera tel que ces différents domaines vont se séparer en définissant, de manière plus ou moins académique, des disciplines qui seront des disciplines séparées comme l'économie, la sociologie, la politologie, tout thème ou tous objets qui ont été d'une manière ou d'une autre abordés par Marx dans ses écrits. Mais évidemment, ça a eu un effet en retour qui est que, précisément dans le contexte académique aujourd'hui, dans une certaine mesure, l'éclatement en disciplines les a disqualifiés. Je dis « les ». J'aurais pu remonter à ma première photo, je vais quand même le faire, mon premier dessin. Je suis tombé sur ce dessin, je le trouve assez joli. En fait, c'est Marx et Engels relativement jeunes, et je trouve il y a quelque chose d'intéressant dans ce dessin, parce que donc Marx, c'est celui qui est à droite sur le dessin, à gauche c'est Engels, et on voit Marx qui avance d'un pas résolu, et Engels qui se préoccupe de lui communiquer probablement quelques idées, mais je trouve le rapport entre les deux est, c'était sûrement pas voulu, mais je le trouve étonnamment bien illustré par ce dessin. Donc, en fin de compte, pour revenir à mon éclectisme du début, je dirais, ils sont dans une certaine mesure tous les deux, ils ont travaillé ensemble, plus ou moins disqualifiés, j'ai écrit à côté de leur pompe, ils sont philosophes pour les historiens, ils sont politologues pour les économistes et ils sont sociologues pour les philosophes. Donc finalement, si vous voulez, ils apparaissent comme un peu disqualifiés à l'égard des développements des sciences humaines contemporaines. Alors, je vais quand même commencer par une bio qui sera fatalement relativement sommaire. Vous allez voir que par la suite, je vais quand même pas m'en tenir de manière étroite à la biographie, c'est pas vraiment ça qui est le plus important, mais je pense qu'elle a quand même beaucoup d'importance quand on parle de Marx, dans la mesure où, entre science et révolution, je pense qu'il y a vraiment chez lui à la fois la volonté de maintenir les deux aspects en rapport constant l'un avec l'autre, et dans une certaine mesure, je dirais donc, j'ai dit la volonté et aussi une certaine réussite à avoir tenu compte des deux dans sa vie. Il est né à Trèves en 1818, il fait l'UNIF à Bonn, il fait le droit et puis il part à Berlin et il fait une thèse de doctorat sur les matérialistes de l'Antiquité, sur Démocrite et Épicure. Et il est proclamé docteur, je ne sais pas trop comment ça marchait à l'époque, de la faculté de philosophie d'Iéna, donc bien qu'il ait travaillé à Berlin, en avril 41. Alors, dès ce moment-là, il est assez mêlé à un milieu assez remuant, qu'on qualifie en général de milieu hégélien de gauche. Alors, Hegel, ça c'est le grand pape de la philosophie idéaliste allemande après Kant, donc début du XIXe siècle, qui a effectivement à la fois d'importantes productions en philosophie et qui est clairement un idéaliste. Et il a de nombreux élèves, qui vont d'ailleurs évoluer de manière diverse, mais beaucoup d'entre eux commencent essentiellement à critiquer Hegel. Pas nécessairement au plan de ses théories philosophiques ou au plan de sa production philosophique, mais à cause des conséquences politiques que Hegel tirait lui-même de sa philosophie ou qui vivait à côté de sa philosophie et qui était en général une manière, si vous voulez, d'entériner les rapports de force dans la société. Je reviendrai un peu là-dessus dans la discussion au-delà de sa biographie. Mais donc, il y a différents courants qui deviennent critiques. Ils deviennent d'abord critiques sur le plan politique à l'égard de Hegel. Et donc, il y a parmi eux, si vous voulez, par exemple, Feuerbach, qui lui rompt tout à fait avec l'idéalisme de Hegel et devient un matérialiste, qui sera lui-même, par ailleurs, l'objet des critiques de Marx, où il y a Bruno Bauer, qui lui ne devient pas carrément matérialiste, mais qui développe des positions qui apparaissent comme pré-révolutionnaires, en tout cas très marquées à gauche à l'époque. Et les aventures de Bruno Bauer ont d'ailleurs une certaine influence sur la vie de Marx, parce que, donc il est un peu plus âgé que Marx, il est né un peu auparavant, et il était à Bonn en 41 et il est complètement censuré par le gouvernement prussien. Et donc c'est à peu près à cette période-là que Marx commence à se dire bon, il avait évidemment fait un doctorat en philosophie, donc je pense que logiquement le débouché auquel il pensait était une carrière académique, et il se rend compte que sa carrière académique est complètement barrée par les interventions du gouvernement prussien qui ont successivement privé de chair Feuerbach et puis interdit de parole Bruno Bauer. Alors, en 43, il se marie avec Jenny von Westphalen, qui est une personnalité très forte, certainement. J'ai écrit Aristo Rouge. Il y en a quelques-unes comme ça dans l'histoire. Donc, quand je dis Aristo, clairement, elle vient de la noblesse, mais c'est une famille qui n'est pas vraiment une famille déclassée. Son frère, par exemple, sera entre 1850 et 1860 ministre de l'Intérieur de Prusse et un des ministres les plus répressifs. Alors qu'elle partage tout à fait dès le début, à la fois, je dirais, les convictions politiques et la vie de Marx. Ils auront plusieurs enfants, trois filles qui essentiellement joueront un rôle important, c'est les seules qui arrivent à l'âge adulte. Jenny Caroline, Laura, qui épousera Paul Lafargue. Paul Lafargue, vous connaissez sans doute son nom, c'est l'auteur du droit à la paresse. Il a été un socialiste français qui a joué un rôle important en fin du 19e. Et son autre fille, Jenny, elle épousera Charles Longuet, qui lui jouera un rôle actif, c'est aussi un socialiste français, qui jouera un rôle actif dans la Commune de Paris. Et enfin, la troisième, qui est Eleanor, voilà, elles étaient toutes les, il y en avait deux qui étaient prénommées Jenny, mais la troisième, on l'a nommée surtout Eleanor. Eleanor sera la compagne d'un dirigeant socialiste allemand qui est Aveling. Donc vraiment, si vous voulez, toute la famille est complètement prise dans ce milieu qui sera le milieu de l'Internationale ouvrière, du développement du Parti social-démocrate allemand, etc. Alors, il ne faut pas non plus oublier que, en plus de ces trois filles, et pour montrer les rapports qui pouvaient l'unir à Engels, je trouve que l'anecdote quand même vaut son pesant de cacahuètes, Marx a aussi eu un fils de la bonne de la famille, donc c'était des amours ancillaires, comme on dit dans ces cas-là. Le fils s'appelait Frédéric de Muth et il a été reconnu par Engels. Donc on n'abandonne quand même pas les enfants, mais l'ami de la famille peut servir à beaucoup de choses, y compris à reconnaître les enfants qui sont nés dans un contexte pas tout à fait orthodoxe. Alors la photo qui est là, c'est une photo effectivement de Marx en famille. Et donc Marx est de ce côté-là. À gauche, c'est Engels. Et il y a Jenny la mère et deux de ses filles. Je crois qu'Éléonore n'est pas dessus, qu'Éléonore, qui est la plus jeune, n'est pas présente sur cette photo-ci. OK. Alors, essentiellement, il commence à travailler comme journaliste. Et son histoire est intéressante de ce point de vue-là. Il commence par être simple journaliste au Rheinische Zeitung. Ça dure un an, qui est un journal qu'on peut qualifier de tendance libérale de gauche, les bourgeois libéraux de gauche, qui avait été fondé avec une volonté anticléricale très nette. Alors, parmi les collaborateurs, il y a des noms intéressants. Il y a Bauer, dont je vous ai déjà parlé, et il y a Moses Hess. Alors, c'est aussi une petite incidente. Moses Hess, qui à l'époque est vraiment un ami et un collaborateur très proche de Marx, il évoluera. Et en fait, ce sera un des fondateurs du sionisme, bien des années plus tard. Hein. Donc, si vous voulez, il sera tout à fait sensibilisé à la question juive et il évoluera pour devenir un sioniste dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, Marx est déjà très en pointe dans ce journal-là. Ils ont des ennuis avec la censure. Marx démissionne en espérant que ça pourra arranger les problèmes avec la censure, mais manifestement, ça suffit pas. Le journal est quand même interdit en 43. Et en fait, c'est quand même relativement important de noter que parmi les sujets qu'il a traités, il y en a un dont il a dit lui-même, d'ailleurs, qu'il a joué un grand rôle dans son évolution intellectuelle. Il a analysé les conditions de vie des vignerons de la vallée de la Moselle, donc si vous voulez, c'est plutôt un travail de sociologie, et en particulier les conditions dans lesquelles on pouvait soit ramasser, soit voler du bois, et c'est son tout premier contact, si vous voulez, avec l'économie politique, à un niveau très très basique évidemment, hein, mais c'est, paraît-il, d'après ce qu'il a expliqué lui-même, le premier contact qu'il a avec la réalité sociale. Et pour lui, ça apparaît vraiment comme une découverte tout à fait radicale et importante. Et donc, face à cette difficulté, il se sent désarmé sur le plan de l'économie politique et il se dit, il faut vraiment que je commence à étudier l'économie politique en tant que telle. Ça suffit pas, si vous voulez, de parler de Démocrite et d'Épicure. Il faut vraiment commencer vraiment à s'intéresser à la réalité sociale. Alors, OK, il est expulsé de Prusse, il va à Paris. Et à Paris, ils fondent un journal qui ne sortira qu'un seul numéro, qui s'appelle Les Annales franco-allemandes, et son collaborateur, là, c'est Roug. Et donc, c'est vraiment la période à laquelle il commence vraiment à se radicaliser. En même temps, Feuerbach rédige ses premiers principes de philosophie de l'avenir, qui sont franchement matérialistes et athées, et c'est Engels qui écrira plus tard, il faut avoir vécu par soi-même l'effet libérateur de ces livres, nous devêmes tout d'un coup tous des Feuerbachiens. Donc c'est une première évolution à la fois sur le plan philosophique et sur le plan politique. Alors, c'est à la même époque qu'il commence à fréquenter régulièrement Engels. Il le connaissait déjà un tout petit peu auparavant, mais en fait, c'est surtout à Paris, en 44, qu'il se lie d'amitié avec lui. Alors, Engels aussi, c'est un personnage quand même assez étonnant. Il a un père qui est un industriel et qui possède différentes usines, dont une qui marche relativement bien à Manchester. Et donc, il va à Manchester, Engels, pour devenir cadre commercial, si on veut, dans l'entreprise de son papa. Et en fait, au lieu de devenir cadre commercial, il découvre les conditions de vie du prolétariat anglais et il écrit un livre qui reste, je crois, aujourd'hui, un des grands, grands classiques de la sociologie. Donc c'est La condition des classes laborieuses en Angleterre en 1845. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir un tout petit peu sur le contenu de ce texte. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, Engels est en avance sur Marx du point de vue de la connaissance réelle qu'il a à ce moment-là des conditions de vie de la classe ouvrière. Alors, ils écrivent une première œuvre commune, qui est La Sainte Famille. Donc, ah oui, vous verrez que la plupart des œuvres dont je vais être amené à parler sont presque toujours des œuvres critiques et polémiques. Et c'est pas du tout un détail dans toute la production de Marx. Je pense que pendant toute sa vie, il a à peu près fonctionné comme ça. Et donc ici, si vous voulez, il attaque Bruno Bauer, qui était un des collaborateurs avec qui il avait travaillé à la Rheinische Zeitung. Donc, il l'attaque essentiellement en lui reprochant son idéalisme, mais à la même époque, il rédige l'idéologie allemande. Alors, l'idéologie allemande, ça fait partie, si vous voulez, des textes qui aujourd'hui comptent, je crois, quand on s'intéresse à la production de Marx, mais il faut quand même aussi être relativement précis. Ce texte a été écrit sans doute en 1845-1846, et n'a été publié, en fait, que bien plus tard, en réalité, par les soviétiques. Et, pour tout dire, il n'avait pas trouvé d'éditeur à l'époque. Et voici ce que Marx en disait lui-même en 1859, dans la préface à la contribution, un titre à rallonge, à l'introduction, la préface à l'introduction à la contribution à la critique de l'économie politique. Ouf. Il écrit « Le manuscrit, deux forts volumes in octavo, était depuis longtemps entre les mains de l'éditeur en Westphalie, lorsque nous apprîmes que des circonstances nouvelles n'en permettaient plus l'impression. Nous abandonnâmes d'autant plus volontiers le manuscrit à la critique rongeuse des souris que nous avions atteint notre but principal, voire clair en nous-mêmes. » Ok. Donc, il n'est pas publié et il le garde. Alors, en même temps qu'on le publie, on retrouve dans le manuscrit un autre texte qui deviendra un tout ou grand classique sur lequel beaucoup de gens disserteront énormément, qui sont les thèses sur Feuerbach. Alors, les thèses sur Feuerbach, ça, c'est vraiment, on les cite souvent comme un des textes de Marx. Il faut voir à quoi ça ressemble. C'est un pense-bête, hein. Alors, j'ai trouvé sur le net copie de la 11e, qui est probablement celle qui a fait couler le plus d'encre. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe, c'est de le transformer. Ben, la thèse, elle est là. Je vous défie de la lire, évidemment. Hein. Donc, c'est vraiment un petit pense-bête sur lequel il a jeté 11 thèses, 11... il n'a jamais eu l'intention de publier ça, évidemment. Hein. Donc, c'est au XXe siècle, lorsque l'idéologie allemande a été republiée, qu'on a trouvé ce petit manuscrit avec le manuscrit de l'idéologie allemande. Et donc, on a beaucoup interprété. Et donc, par rapport à... je pense que ça doit être une des phrases qui ont donné lieu au plus de développement et au plus de dissertations de la part d'autres philosophes après coup. Alors, je reviens donc à l'idéologie allemande en disant, essentiellement, l'idéologie allemande, quand il dit qu'ils règlent leurs comptes, c'est avec qui ? C'est avec Hegel. Et donc, c'est avec leur propre passé d'hégélien, dans lesquels, à la fois, ils règlent les comptes avec Hegel, avec la philosophie d'Hegel, Hegel lui-même n'est plus là, mais ils règlent les comptes avec la philosophie d'Hegel et opèrent ce qu'on aura l'habitude d'appeler un renversement. Alors, pourquoi un renversement ? Parce qu'essentiellement, si vous voulez, il garde de Hegel l'idée, pour commencer, qu'il y a une histoire. Que cette histoire, ce n'est pas simplement des anecdotes. Qu'on peut tracer l'évolution des sociétés. Et qu'il y a des grandes époques qui sont caractérisées. Je reviendrai après sur l'idée des modes de production. L'idée des modes de production est déjà en partie présente dans les travaux de Hegel. Mais alors que Hegel, si vous voulez, attribue le moteur de cette évolution historique à, en bon idéaliste, si vous voulez, à des programmes qui sont des programmes mis au point par des... Donc, quand je dis programme, je m'exprime évidemment dans un langage qui est relativement moderne. Mais c'est, si vous voulez, les idées qui guident le monde. On a des projets et les sociétés évoluent en fonction des projets qu'on réalise. Alors, de manière encore plus précise, chez Hegel, si vous voulez, le sommet de la rationalité, pour Hegel, c'est l'État moderne. Et donc, l'État moderne, c'est vraiment une entité qui est complètement, pour reprendre en partie le langage de Marx lui-même, fétichisé par Hegel. Et donc, le retournement de Hegel, c'est pour ça que c'est un retournement et pas une liquidation complète, c'est qu'il garde l'idée de la succession des différents stades dans l'évolution de la société, dans l'histoire, mais en disant, ça n'a rien à voir avec la réalisation d'un programme ou l'émergence d'une rationalité supérieure, en fait, c'est vraiment dans les contradictions de la vie sociale elle-même qu'il faut trouver le moteur de l'histoire. Et donc, lui-même, si vous voulez, plus tard, explique que c'est vraiment ce retournement qui va l'amener à développer tout ce qui deviendra après ses écrits dans le Capital. Alors, je continue dans la bio. En passant, si vous voulez, à Paris, il avait noué connaissance avec Proudhon, et dans un premier temps, il avait plutôt eu un échange de sympathie. Proudhon, c'est un personnage qui a un profil tout à fait différent de Marx. Hein. Marx est un intello, il vient d'une famille qui était juive au départ, mais qui s'était convertie au protestantisme une génération au-dessus de lui. Donc, dans la bonne bourgeoisie rhénane, Proudhon, c'est plutôt quelqu'un qui vient des milieux ouvriers, dirait-on. Enfin, c'est peut-être un peu un anachronisme, mais c'est quand même à peu près ça. Et donc, dans un premier temps, Marx est très séduit par la personnalité de Proudhon en disant « j'ai un vrai représentant du monde ouvrier en face de moi ». Et puis, très vite, si vous voulez, il prend ses distances. Et il sort un premier bouquin qui est un bouquin très critique à l'égard de Proudhon un peu plus tard. Donc en 47, là, il noue connaissance avec Proudhon en 44-45 et il l'attaque notamment en disant en France, ça rejoint un peu ce que moi je vous disais en commençant des reproches qu'aujourd'hui on ferait plutôt à l'égard de Marx lui-même. En France, il a le droit d'être mauvais économiste parce qu'il passe pour un bon philosophe allemand. En Allemagne, il a le droit d'être mauvais philosophe parce qu'il passe pour être économiste des plus forts. Et nous, en notre qualité d'allemand et d'économiste, nous avons voulu protester contre cette double erreur. Donc vous voyez, le ton est quand même tout de suite un ton virulemment polémique. En fait, si vous voulez, c'est vrai que, pour revenir à Proudhon, il y avait chez lui, donc il est lui-même relativement idéaliste, mais par exemple, pour vous donner une image qui est une image, je crois, qui permet de voir assez simplement la nature politique des divergences qui pouvaient exister, à l'époque, évidemment, un des grands actes de protestation, c'est la protestation contre le travail des enfants. Ce sera évidemment un thème qui couvrira l'entièreté du mouvement ouvrier. Eh bien, Proudhon traite exactement sur le même plan le travail des enfants et le travail des femmes. Donc pour lui, il réclame l'interdiction du travail des enfants et de la même manière, il réclame l'interdiction du travail des femmes parce que la place des femmes est à la maison. Et que c'est à ses yeux une injustice aussi grande, si vous voulez, d'obliger des enfants à travailler que d'obliger des femmes à travailler ou vice-versa. Ok. Alors, on en vient aux activités politiques. Donc, quand même un mot en passant, parce que je trouve que ça vaut la peine de s'y arrêter. Il est remuant partout où il se trouve. En 1945, il est chassé par le gouvernement français, par Guizot, qui est président du Conseil. Et à ce moment-là, il arrive à Bruxelles. Alors, à Bruxelles, si vous voulez, quand même, je trouve que ça vaut la peine de le noter. Je suis tombé sur un petit bout de texte rédigé par Jean Stengers qui écrit ceci à propos de visites de bâtiments célèbres qui ont été occupés par des personnalités connues à Bruxelles. Monsieur Charles Marx, docteur en philosophie, c'est ainsi qu'il déclinait son identité, a vécu à Bruxelles de février 45 au début de mars 48, donc 3 ans. Pendant ces 3 années, il a eu plusieurs domiciles successifs, mais parmi les lieux où il a vécu, il en est 2 qui se détachent avec éclat, car quelles que soient les opinions politiques ou philosophiques qu'on professe, ils apparaissent comme des hauts lieux de l'esprit. Le premier est la maison de Saint-Justen-Naud, que Marx a occupée en 45-46, à l'époque où, avec Engels, il élaborait la théorie du matérialisme historique. Alors, petite incidente, c'est en fait au moment où il écrivait l'idéologie allemande, donc c'est le renversement qui est qualifié par Stengers d'établissement de la théorie du matérialisme historique. Le second est la maison d'Ixelles, où il a rédigé le manifeste communiste. Matérialisme historique, manifeste communiste, ici à Bruxelles, sont les lieux de naissance d'éléments décisifs du monde contemporain. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas un détail. La maison à Ixelles se trouve aujourd'hui dans une rue qui a changé. La maison n'existe plus, hein. Elle a été abattue. Et elle se trouve dans une rue qui est une perpendiculaire à l'avenue Louise, qui s'appelle rue Jean d'Ardenne. Donc, il était pas loin de l'avenue Louise, quoi. Alors, donc, au niveau politique, ils commencent vraiment à organiser des groupes. Au printemps 47, ils adhèrent à la Ligue des communistes, qui est en fait un vieux groupe qui existait déjà, qui était un peu construit, si vous voulez, sur le mode de conspirateurs, qui était un groupe héritier de la Ligue des Justes, un groupe allemand qui avait été fondé en 1836. Et donc, j'ai noté, si vous voulez, que parmi les membres, non pas de la Ligue des Justes, mais de la Ligue des Communistes, il y avait plusieurs noms qui reviennent régulièrement, notamment dans l'histoire de la Première Internationale, de l'Internationale ouvrière. Johannes Arius, qui sera le principal porte-parole de Marx dans la plupart des congrès de l'Internationale. Friedrich Engels, évidemment. Alors, Wilhelm Liebknecht, qui jouera lui-même un rôle important dans la fondation du Parti social-démocrate allemand, Karl Schaper, Moll et Wilhelm Wolff. Ce sont tous des gens, si vous voulez, qui ont joué un rôle très très important. Donc je trouve assez étonnant de voir, au niveau des personnes, si vous voulez, une continuité quand même assez importante entre les premiers personnages qui apparaissent en 1847 et dont l'action va jusque à peu près à la fondation de la deuxième internationale, donc qui sera plutôt 1890. Alors, Marx, en quelque sorte, prend le pouvoir dans cette Ligue des communistes, et c'est donc à la demande de la Ligue des communistes qu'il écrit le manifeste, qui est une espèce de texte, lui, de synthèse. Un texte donc, dans lequel, évidemment, on reconnaîtra pas mal d'idées qui ont été développées par la suite, mais dans lequel il y a quand même, c'est un texte qui est quand même assez particulier dans l'œuvre de Marx. Il n'est pas polémique. Il est polémique contre la situation sociale et contre la bourgeoisie, mais il n'est pas dirigé contre Hegel ou contre Bauer ou contre Stirner. C'est pas une polémique directe avec certains de ses interlocuteurs. C'est une espèce d'exposé général de comment il voit l'évolution politique. Et donc, ça paraît en février 48. Alors, j'ai mis une image de l'édition initiale et les deux images suivantes sont donc ces deux qui sont là. Ça, c'est pour vous montrer à quel point. Enfin, vous savez tous évidemment que c'est probablement un des textes. J'ai vainement cherché une indication quant au tirage global du manifeste du Parti communiste. Je ne sais, donc je sais que c'est énorme et je sais, il est repéré comme un des 10 textes qui ont été le plus diffusés dans l'histoire récente, dans le dernier siècle d'histoire de l'écrit. Mais je lis d'en avoir deux exemplaires. Donc celui en noir et blanc en particulier, c'est un plus récent qui a été illustré par Franz Masryl, qui est un graveur sur bois. Qui a été un communiste flamand et qui est mort il y a environ 40 ans. OK. Alors, on en vient à des événements qui sont des événements importants, les révolutions de 48. Donc, il est actif dans ce contexte. Il retourne. Donc, la révolution éclate à Paris en 48. Il retourne à Paris. Et puis, il retourne à Cologne. On en parle beaucoup moins, hein, mais en 48, si vous voulez. Les événements révolutionnaires ont vraiment une ampleur européenne. Donc, on connaît aujourd'hui, et on parle souvent de la révolution de 1848 en France, qui a conduit finalement, après quelques épisodes, au pouvoir de Napoléon III. En Allemagne, il y a quand même beaucoup, beaucoup aussi d'événements très, très importants. Et ce qui est flagrant, si vous voulez, c'est de se dire que probablement, de ce point de vue-là, la perspective historique, évidemment, aura dû être modifiée. Les militants ou les communistes de cette époque-là pensaient vraiment qu'on vivait la fin de la bourgeoisie. Donc là, il y a évidemment, on pourra revenir sur ce genre de questions dans la discussion quand on sera au-delà de la bio. Mais donc, je pense que vraiment, ils ont pensé que ces révolutions pourraient être les premières révolutions ouvrières et qu'elles pourraient être victorieuses. Donc évidemment, il y a une erreur de perspective qui, a posteriori, est certainement facile à déceler. Donc, Marx se retrouve au tribunal pour avoir publié dans la Neue Rheinische Zeitung une proclamation révolutionnaire d'un des dirigeants de l'insurrection en Bavière. Et donc, il y va de manière très offensive en revendiquant son droit de publier ce qui devait l'être. Il est acquitté comme éditeur de presse, mais quand même expulsé. Et donc ça aussi, je trouve, c'est quelque chose qui est relativement à noter, enfin qui moi me frappe. Donc c'est en fait une mesure qui est une mesure de type ancien régime, évidemment. Il est banni, il est citoyen prussien. Et donc il est acquitté au tribunal, Mais on lui dit, OK, maintenant tu t'en vas. Et donc à partir de ce moment-là, il fait un petit passage retour à Paris, et puis il est expulsé de Paris après la manifestation, qui a été une manifestation violente en 1949, et il va à Londres. Et à Londres, il y vivra jusqu'à la fin de ses jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je pose la question, ont vu la pièce que le Théâtre des Rues a monté ici, qu'on a présenté en novembre, non? En fait, c'est tout à fait étonnant. C'est une pièce de Howard Zinn, qui est un historien américain, qui est une pièce qui reprend, si vous voulez, c'est un grand monologue de Marx lui-même. Et j'y pense pour le moment parce que les conditions misérables dans lesquelles il a vraiment vécu à Londres sont bien décrites dans cette pièce, et en même temps avec un aller-retour tout à fait intéressant entre les conditions de sa vie matérielle immédiate et ses interventions politiques. En fait, le seul vrai gagne-pain qu'il aura pendant toutes ces années-là sera une activité de journaliste, essentiellement pendant les années 1850, pour le compte du New York Tribune. Donc, en fait, il est, si vous voulez, à Londres, le correspondant du New York Tribune qui lui paye des articles. Et ça, il y en aura beaucoup moins après les années 50. Mais donc, fondamentalement, pour vivre, il gagne. À un moment donné, il postule comme employé à la Société de chemin de fer britannique. Mais vous avez vu le genre de petit grafouillis qu'il pouvait faire pour écrire. Donc avec la 11e thèse sur Feuerbach, et il a reçu une réponse de la direction des chemins de fer britanniques qui disait que quelqu'un qui avait une écriture comme ça pouvait pas devenir employé des chemins de fer. Donc, en dehors de ça, donc si vous voulez, essentiellement, il a donc vécu un peu du journalisme alimentaire qu'il faisait pour le New York Tribune, et d'autre part, il était largement soutenu par Engels, qui tapait dans le capital familial chaque fois qu'il y avait des problèmes. Et d'autre part aussi, quand même, une petite intervention. Alors ça, c'est la première fois que j'ai lu ça en préparant cette conférence-ci. En fait, il a aussi été en partie soutenu par Philips. Alors, vous savez qui est Philips? C'est celui de la multinationale. Mais c'est son cousin. Donc, Monsieur Philips, qui est le monsieur qui a fondé la grande multinationale Philips, c'est le cousin de Karl Marx. C'est le fils du frère de sa mère. Donc, c'est vraiment un cousin germain. Et ils étaient plutôt en bon rapport, et donc de temps en temps, quand ça allait vraiment mal, Philips lui envoyait aussi un peu des sous. Ok. Alors, la Ligue des communistes s'autodissout en 1852, et donc ça c'est très révélateur, si vous voulez. Elle s'autodissout à cause de l'échec des révolutions de 1848. Donc, ils étaient partis pour organiser la révolution est vaincue, et le groupe lui-même commence à se déchirer sur « mais pourquoi est-ce qu'on a perdu ? Pourquoi est-ce qu'on a été battu ?» Et ce genre de processus, vous verrez que c'est pas la dernière fois que ça se produira. Alors donc, il commence vraiment, si vous voulez, à avoir sa table au British Museum, et il travaille, si vous voulez, pour écrire le Capital. Alors en 1859, donc je saute quand même un tout petit peu, il y a un texte relativement important qui s'appelle « Contribution à la critique de l'économie politique », et pour l'essentiel, je dirais que l'essentiel de l'économie politique de Marx y est. Alors, commentaire de Marx lui-même, je ne pense pas qu'on ait jamais écrit sur l'argent tout en en manquant à ce point. Alors, il collabore, mais ça c'est gratuit, c'est pas un gagne-pain au journal Das Volk. Donc ça témoigne de l'intérêt qu'il garde de manière précise pour les développements qui ont lieu au sein du mouvement ouvrier allemand. En 67, la première partie du Capital est publiée, et ça vaut la peine de le noter, parce que ce n'est pas le seul texte pour lequel il y aura des choses qui sont à peu près comparables. En fait, la suite ne le sera pas. C'est Engels qui achèvera le travail après la mort de Marx et qui publiera les livres 2 et les livres 3. Et lui-même, si vous voulez, n'a pas vraiment eu le temps. Alors, en partie parce qu'il n'était pas toujours en bonne santé, mais pas seulement, j'y reviendrai, parce qu'il avait probablement une certaine difficulté à présenter un travail achevé pour des raisons qui sont tout sauf anecdotiques, à mon sens. Enfin, quand je dis à mon sens, c'est pas seulement au mien. Donc, je continue avec l'évolution politique. 1864, c'est une date importante, c'est la fondation de l'international de l'Association internationale des travailleurs, donc qui sera la première internationale. Elle est réellement internationale. Donc, il y a des délégués français, italiens. Alors, vous voyez que le nom de pour Michel Bakounine, dont on parle plutôt comme d'un russe au départ, il est catalogué suisse, parce qu'effectivement, il était établi en Suisse. Mazzini en Italie. Mazzini, c'est plutôt un garibaldien. Proudhon en France, j'en ai déjà touché deux mots. En Belgique, César de Pape. Beaucoup de représentants, enfin beaucoup, quelques représentants des syndicats britanniques, des trade unions. La Salle, qui sera probablement le principal organisateur du mouvement ouvrier en Allemagne. Et Marx, si vous voulez, c'est aussi une constante un peu dans sa vie. Il intervient beaucoup, mais souvent à distance. Et donc, il n'est pas présent directement au Congrès, mais c'est lui qui a écrit les textes de base. Et quand je disais que, typiquement, par exemple, il est évidemment très attentif à ce que les positions qu'il veut développer soient présentées au Congrès, et il a un porte-parole qui est Carius. C'est arrivé à plusieurs congrès successifs de l'international. Donc, Carius, qui est un des noms, sans doute vous ne l'avez pas enregistré immédiatement, un des noms qui était déjà dans la toute première organisation, qui était la Ligue des communistes, c'est un ouvrier allemand, et il est essentiellement d'accord, c'est pas un grand créateur de théorie, mais pour l'essentiel, si vous voulez, il apparaît comme le porte-parole des idées de Marx, et largement, si vous voulez, Marx l'emporte idéologiquement lors de ce premier congrès en 1864. Il n'est pas, je vous dis, ses positions ne sont pas les seules, mais il a en face de lui, si vous voulez, l'antagonisme n'est pas encore aussi net que ce qu'il deviendra après, mais je dirais, il y a essentiellement trois tendances. Les proudhoniens, qui sont plutôt les Français avec des tendances idéalistes très marquées. Alors, face aux proudhoniens, au début, Bakounine et Marx apparaissent plutôt comme des alliés contre Proudhon, et puis très vite, ils se disputeront et Bakounine deviendra le leader de ceux qu'on appellera plus tard les anarchistes. Je ne sais pas jusqu'à quel point Jean Puissant vous en a parlé il y a un mois, mais enfin, c'était effectivement son thème. Alors, bon, donc, l'international fonctionne avec quand même quelques congrès. Il y en a en Belgique, il y en a à Genève. Donc, Marx continue à jouer un rôle relativement important à ce niveau-là. Et puis, l'histoire, de nouveau, si vous voulez, fait irruption de manière très, très violente dans toute cette évolution à travers la Commune de Paris. La Commune de Paris, ça, c'est vraiment un événement tout à fait majeur, mais à la fois historiquement, mais aussi dans l'évolution de la pensée politique de Marx. Et je ne vais pas entrer plus dans les détails parce que j'ai gardé des morceaux pour la discussion moins biographique pour la suite, mais en effet, si vous voulez, le massacre final, donc il y a quand même, quand les Versaillais entrent dans Paris, ils tirent sur tout ce qui bouge, il y a certainement 30 000 morts. On dit 30, enfin, évidemment, pas des recensements aussi précis que ceux qu'on peut faire actuellement, mais oui, 30 000, 40 000 morts, quelque chose de cet ordre-là, avec les dernières barricades et puis finalement le mur des fédérés. Y a des procès qui viennent. Et en fait, évidemment, répétition du processus de 1848, de nouveau, pourquoi la commune a-t-elle été battue? Alors, bon, on discute. Et de fait, la première internationale, en pratique, ne survivra pas à la défaite de la Commune de Paris. En 1872, les Bakouniniens sont exclus, mais continue une organisation qui est minoritaire, qui se définit comme des fédéralistes. Ils se définissent pas encore comme des anarchistes à ce moment-là. Mais eux-mêmes auront une organisation qui continuera à fonctionner jusqu'en 1876. Et d'un autre côté, le Conseil général de l'Association internationale avec les marxistes et les proudhoniens sera transféré d'abord à Londres, puis vers New York pour dépérir assez rapidement, de nouveau, si vous voulez, à cause des dissensions qui existaient à l'intérieur. Alors, la suite des fins de sa vie, Marx se consacre au Capital, il apprend le russe, donc quand même, tant qu'à parler bio, il parlait, paraît-il, très très couramment français. L'anglais, évidemment, il a vécu à Londres, l'italien et l'allemand. Mais donc, il décide à ce moment-là que c'est quand même utile de parler le russe. Vous verrez que dans ce que je veux vous expliquer, ouais, je suis quand même encore, il me reste un peu de temps. Dans ce que je veux vous expliquer, ça n'est pas tout à fait un détail. Il n'achève pas vraiment le Capital, c'est Engels qui s'en chargera après, mais pendant la même période, c'est le mouvement ouvrier allemand qui devient de plus en plus l'épicentre de l'international et de la construction du mouvement ouvrier. En passant, si vous voulez, Marx, qui reste très attentif, écrit un autre texte politique important sur lequel je ne donnerai pas beaucoup de détails, qui est le programme de Gotha. Donc le programme de Gotha est un programme du Parti social-démocrate allemand que Marx et Engels critiquent assez virulemment. Alors, du point de vue international, il faut attendre 1889 pour voir une véritable relance du processus. Donc, je vous rappelle que Marx est mort en 83. Engels jouera un rôle important dans la fondation de la Deuxième Internationale, mais la Deuxième Internationale est clairement dominée par le mouvement ouvrier allemand. Alors, les idées de Marx se répandent, notamment avec ses gendres, Lafargue, Longuet. Alors, toujours pour ceux qui étaient là à la représentation théâtrale, dans le texte de la représentation théâtrale, effectivement, on insiste assez fort sur Marx dit « mais je ne suis pas marxiste ». Alors évidemment, il faut quand même, je trouve aussi un tout petit peu nuancé, ça fait évidemment partie du débat, je trouve, qui est intéressant aujourd'hui. Quand est-ce qu'il dit ça? Il dit ça quand même à la fin de sa vie. Il dit ça à la fin de sa vie au moment où, dans le contexte de l'international, il commence à y avoir quelques travaux de diffusion et de vulgarisation de ses propres écrits, et pour l'essentiel, il ne se reconnaît pas vraiment dans ses textes de vulgarisation. Et donc, il dit, en parlant en particulier de certains des textes de ses gendres, si c'est ça le marxisme, alors ce qui est certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Donc, je trouve, par rapport à l'expression pure et dure, simplement « je ne suis pas marxiste », je trouve la première subordonnée, il ne faut quand même pas l'oublier. Si c'est ça le marxisme, alors je ne le suis pas. Bon, Jenny meurt en 81 et Karl Marx en 83. J'ai mis une petite photo du cimetière. Moi, j'ai été visiter. Effectivement, le monument qui est à Londres, au cimetière de Highgate, est un monument récent. Il date de 1954, donc c'est pas du tout un monument qui date de l'époque. J'ai trouvé plus amusant d'aller prendre une bonne pinte dans le café où Marx allait boire ses pintes, qui est un peu plus haut. Donc Highgate, c'est un des quartiers étonnants de Londres, qui est à l'intérieur de Londres évidemment, mais qui est une espèce de village au milieu de la ville, et donc c'est là qu'il vivait. Ok. Alors, bilan théorique, parce que quand même, un mot d'introduction sur la manière dont j'ai pensé faire ceci, préparer ceci. Anne se souviendra que c'est au moins la deuxième fois que je fais un exposé sur Marx, et le premier, je l'avais fait dans des conditions un peu inhabituelles, presque improvisées, il y a quoi, 5-6 ans, quelque chose comme ça, ou une dizaine d'années, et je m'étais dit, ok, en improvisant, comment est-ce qu'on peut faire? J'avais, à l'époque, trouvé un petit livre que je continue, qui m'avait servi de fil conducteur beaucoup moins aujourd'hui, parce que j'ai eu plus de temps, mais beaucoup moins aujourd'hui. Le petit livre en question, c'est un livre écrit par Étienne Balibar, qui s'appelle « La philosophie de Marx », et que je vous recommande vraiment tant que je peux, enfin, si ça vous intéresse, si ce genre de sujet vous intéresse. C'est pas un gros bouquin, et vraiment, si vous voulez, Balibar fait un exposé de ce que lui trouve important donc dans le bilan théorique de Marx, et c'est un exposé dans lequel il entre en discussion avec Marx. Donc, si vous voulez, il prend les thèses développées par Marx, il fait son bilan théorique, et à plusieurs endroits, il se positionne lui-même, qui est un philosophe, il se positionne lui-même en interlocuteur de Marx et en reprenant, dans une certaine mesure, des discussions qui, évidemment, ont fatalement un caractère anachronique. Enfin, je veux dire, le bouquin de Balibar a quand même maintenant une petite vingtaine d'années. Bon, mais enfin, ça fait quand même de toute façon 100 ans après la mort de Marx. Et donc, ok, tout ça pour vous dire que ce que j'ai en tout cas gardé dans cet exposé-ci, c'est l'idée que, au-delà de la bio et de ce bilan théorique que je vais quand même rapidement vous présenter, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement d'entrer dans les problématiques ouvertes par Marx et de voir dans quelle mesure elles sont pertinentes, elles ne le sont pas, qu'est-ce qu'on peut raconter à ce sujet. Si vous voulez, c'est un tout petit peu la discussion aussi de qu'est-ce que c'est le marxisme si ce n'est pas ce que Longuet ou Lafargue en disaient dans les années 1880. Alors, en fait, il y a un texte qui est celui dont je vous ai déjà touché un mot, qui est la préface à l'introduction, à la contribution, à la critique de l'économie politique. Je répète encore une fois, je dois vraiment moi-même faire un effort pour énoncer ce titre, dans lequel, si vous voulez, ce texte a été aussi très souvent reproduit, et il fait une espèce de... Non, il a eu au moins l'avantage d'être une synthèse proposée et écrite par Marx lui-même, après, au moment où il a déjà, si vous voulez, largement travaillé sur l'économie politique. Et donc, je vous le lis simplement, parce que je crois que ça vaut la peine, il y a beaucoup de concepts tout à fait importants qui sont repris dans ce texte. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Ok. Ce texte est vachement dense, hein. Donc je pense que vraiment, il a fait lui-même une synthèse et il y a beaucoup d'idées qui se trouvent dedans. Alors beaucoup des concepts qui ont été vraiment mis en place et utilisés par Marx s'y retrouvent. C'est ceux que j'ai largement, soulignés en rouge. Il y a rapport de production, il y a force productive, il y a base opposée à superstructure et il y a mode de production. Et puis, il y a le second paragraphe sur lequel je reviendrai aussi dans la suite de l'exposé. Alors donc, les forces productives, c'est essentiellement... Donc qu'est-ce qui se trouve dans ce que Marx appelle la base? Ben, c'est les forces productives qui sont elles-mêmes en rapport entre elles via des rapports de production. Alors les forces productives, c'est deux choses. C'est essentiellement la base matérielle qui permet vraiment de produire. Donc, par exemple, l'état de développement de l'industrie, mais aussi les connaissances qu'il y a derrière, les technologies qui sont utilisées dans ces industries. Et en même temps, si vous voulez, de manière liée, les rapports de propriété, dont il dit que ce sont seulement la forme juridique des rapports de production réels, qu'il y a entre les rapports de pouvoir, si vous voulez, entre les détenteurs de ces moyens de ces moyens de production et ceux qui sont exclus de toute forme de pouvoir sur ces moyens de production. Ok. Alors, l'articulation de ces forces productives dans des rapports de production, ça désigne chez Marx ce qu'on appelle le mode de production. Donc je vous ai dit que le mode de production, ça c'est une idée qui était déjà plus ou moins présente, pas avec le même vocabulaire, mais chez Hegel. Alors pour encore compliquer, quand on va plus loin dans des textes que Marx a écrits, en fait on se rend compte qu'il dit lui-même qu'il ajoute une autre idée qui n'est pas reprise dans ce texte-ci, qui est l'idée d'une formation sociale et économique. En disant, à un moment donné, si vous voulez, quand on étudie une société, lui parle à ce moment-là de formation sociale et économique, on peut imaginer la coexistence de plusieurs modes de production au sein d'une même formation sociale. Donc, si vous voulez, le mode de production est, à ses yeux, un concept qui est défini théoriquement, typiquement, par exemple, le mode de production esclavagiste ou le mode de production capitaliste, qui implique un développement de forces productives et des rapports de production, mais on peut imaginer que certains secteurs de la société ne soient pas encore dans un mode de production capitaliste. Et une société pour laquelle cette idée-là a été particulièrement développée après, c'est l'Italie, dans laquelle on avait, si vous voulez, dans la formation sociale italienne fin 19e, début 20e, un développement capitaliste très très marqué dans le Nord, en même temps, si vous voulez, que les rapports de production qui continuaient à exister dans le Mezzogiorno étaient largement encore des rapports d'ancien régime, des rapports de type féodal. Donc, ça rejoint en partie, si vous voulez, donc je m'amuse un peu pour le moment à souligner la complexité de ce genre de schéma, mais les points clés se trouvent là. OK. Donc, j'ai simplement conclu par une toute petite indication. Il n'y a pas beaucoup de synthèse de ce que Marx a fait dans son travail. Et donc, il est évidemment normal et naturel qu'une des rares synthèses qu'il ait produite soit largement diffusée, discutée et utilisée pour essayer de faire comprendre sa conscience. Alors, je vous ai dit, il y a quand même, on entre dans les discussions, il y a plusieurs problèmes, questions qui apparaissent à la lecture de ce texte. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que cette succession de modes de production, donc esclavagiste, féodal, capitaliste, est-ce qu'il faut comprendre que la succession de ces différents modes de production est une espèce d'enchaînement linéaire et inéluctable des modes de production de l'un à l'autre? En fait, si vous voulez, cette espèce de succession et d'enchaînement inéluctable, elle est assez en accord avec une forme d'air ambiant qui existait dans la seconde moitié du 19e et qui était ce qu'on appelait l'évolutionnisme, dans laquelle on avait vraiment l'impression que toutes les structures qui pouvaient apparaître, pas seulement dans la société, hein, donc je reviendrai là-dessus, c'est une partie que je voudrais discuter aussi avec vous, je reviendrai là-dessus éventuellement à propos de la biologie. Donc, est-ce qu'il faut vraiment comprendre cette succession de modes de production comme un parcours obligé, un enchaînement inéluctable qui fait passer de l'un à l'autre et dans lequel, si vous voulez, c'est vraiment l'évolution, en quelque sorte, des techniques qui, en fin de compte, est le facteur déterminant de l'évolution des sociétés. Deuxième question. Base superstructure. Primauté absolue de la sphère économique. Si je remonte, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une phrase où on dit le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. OK. Là aussi, si vous voulez, dans la descendance de Marx, c'est une question mais qui a fait couler des montagnes ou des torrents d'encre, je dirais, dans laquelle, en effet, comment faut-il comprendre cette primauté absolue de la sphère économique? Alors, la réponse viendra plus tard, et effectivement, elle viendra notamment dans une lettre écrite par Engels quelques dizaines d'années plus tard. Il dit, oui, mais la détermination par la sphère économique, c'est une détermination en réalité en dernière instance. Et il y a eu des tas de philosophes qui, dans les années 70 en particulier, se sont longuement penchés sur l'idée, oui, mais comment comprendre cette dernière instance? Est-ce qu'il existe une autonomie de ce qu'on appelle la superstructure ou pas? Donc, ce sont des questions dont je dirais probablement qu'elles ont été posées dès l'époque où Marx écrivait et qui sont restées ouvertes aujourd'hui. Alors, une autre question qui est importante aussi, c'est aujourd'hui les préoccupations de type écologique. Alors, je remonte, et là, c'est le second paragraphe que je vise. Quand on dit, si vous voulez, clairement, qu'est-ce qui provoque une situation révolutionnaire? C'est-à-dire une situation qui achève le cycle de vie d'un mode de production et induit le passage vers un mode de production différent. Marx répond, dans cette préface, eh bien, les forces productives entrent en contradiction avec les rapports de production existants, et donc, en fait, les rapports de production deviennent des entraves pour le développement des forces productives. Réponse immédiate, évidemment, vous prenez ça à la lettre, Marx est un pur productiviste. Quand est-ce qu'il faut changer les structures sociales? À partir du moment où les rapports de production ne permettent plus le plein développement des forces productives. OK. Donc, je garde ça comme une question qui, effectivement, peut lui être adressée de manière tout à fait légitime. Alors, y a-t-il un messianisme chez Marx? Donc, je veux dire, ça, c'est une question qui n'est pas directement dans ce texte, mais je dirais que c'est plus une question pour aujourd'hui. Quand aujourd'hui, on s'intéresse à tous les discours à propos de Marx et du marxisme, ben, Marx est un prophète. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'image qu'on a de Marx par rapport à ses interventions politiques, on en garde l'idée que c'est un prophète. Est-ce que cette idée est une idée justifiée ou pas? Et enfin, dernière question, finalement, dans tout ça, est-ce qu'il y a place pour de vraies préoccupations philosophiques et est-ce qu'on peut parler d'une philosophie de Marx? Alors, il me reste quand même 35 minutes, je vais entrer dans cette discussion, mais pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ces questions-problèmes sont posées. Alors, je commence avec celle qui, à mon avis, est la plus facile, l'écologie, et donc ce texte-là. Alors, je dirais simplement que, certainement, l'idée n'est pas de faire de Marx un écologiste avant la lettre, ou de reporter des préoccupations actuelles 100 ans en arrière. Mais il y a quand même plusieurs citations qui sont amusantes, qu'on peut refaire, dans laquelle, la première que j'ai prise, c'est une quand même qui remonte assez loin, c'est dans l'idéologie allemande, le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux. Donc si vous voulez, c'est quand même une préoccupation dans laquelle on voit un lien entre les préoccupations par rapport à la nature et les rapports sociaux. Ok, c'est simplement cité comme ça. Je trouve que l'autre texte, il y a deux autres textes qui sont amusants pour montrer simplement, si vous voulez, je répète encore une fois, je ne veux pas faire de Marx un écologiste, hein, mais donc la grande propriété foncière, c'est juste au-dessus de ce que j'ai souligné en rouge, réduit la population agricole à un minimum, à un chiffre qui baisse constamment, et elle crée ainsi les conditions qui provoquent un hiatus irrémédiable dans l'équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie. Ça, je trouve, ça commence à ressembler à des expressions qui pourraient être intégrées dans un cadre écologiste plus moderne. Donc, c'est des espèces de petits fragments qu'on peut trouver comme ça. Remarquez, le texte précédent, la grande synthèse de l'introduction, n'est pas non plus un texte très long. Hein. Et alors, une autre citation qui est faite souvent, c'est celle qui se trouve en bas. Est-ce qu'elle est ici ou elle est à la page suivante? Non, je vais passer tout de suite à la page suivante. Les résidus de la consommation sont de la plus grande importance pour l'agriculture. Leur utilisation donne lieu en économie capitaliste à un gaspillage colossal. À Londres, par exemple, on n'a retrouvé rien de mieux à faire de l'engrais provenant de 4,5 millions d'hommes que de s'en servir pour empester à frais énormes la Tamise. Donc, bon, on peut trouver quelques phrases de ce genre-là. Moi, je dirais, si vous voulez, pour moi, il y a une phrase aussi qui a trait au recyclage. Je dirais, en fait, le texte qui va le plus dans l'autre sens, c'est le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure en parlant d'Engels, qui est la situation des classes laborieuses en Angleterre. En fait, quand on lit ce texte, donc ça c'est vraiment, je pense, honnêtement, un texte fondateur de la sociologie contemporaine. Enfin, vraiment, c'est une des premières enquêtes qui a été tout à fait réalisée sur la situation de la classe ouvrière anglaise. Et en fait, on trouve dedans des descriptions sur la teneur en CO2 de villes comme Londres ou Manchester, le problème de l'aération ou de l'urbanisation de certains quartiers populaires, de distribution. Donc vraiment, là, dans ce texte-là, les préoccupations, alors évidemment analysées en termes de conditions de vie de la classe ouvrière, mais les préoccupations de type écologiste ou de type conditions dans lesquelles on fonctionne sont évidemment tout à fait présentes. Le reste, c'est presque un peu pour le gag que je le mets, pour montrer qu'on peut trouver dans l'œuvre de Marx, mais vous allez voir que trouver des choses contradictoires, c'est pas vraiment tout à fait inattendu. On peut trouver dans l'œuvre de Marx, effectivement, des références, pour moi, qui montrent que peut-être aurait-il pu être attentif à des préoccupations de type environnemental. En fait, la plus intéressante de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est le hiatus irrémédiable dans l'équilibre complexe. Ça, c'est vraiment une phrase, si vous voulez, qui témoigne d'une préoccupation qui est peut-être un peu différente. Ok. Alors, sur le métianisme, là, je veux dire, je serai plus carré en disant, pour moi, vraiment, il y a un quiproquo ou un malentendu majeur derrière l'accusation de messianisme qu'on adresse en général ou très souvent à Marx. En fait, si vous voulez, vous pouvez prendre, il a écrit, mais vraiment des centaines et des centaines de pages, et à part les textes de commande qu'il a écrits pour l'International, comme la première adresse pour le congrès de 64, ou le manifeste, mais qui n'est pas réellement un programme, en fait, Marx n'a jamais écrit de programme, même pas économique, hein. Donc, si vous voulez, non, certainement pas politique, mais même pas économique, pour ce que devrait être la société future. Donc quand on dit on va réaliser une société marxiste, c'est un contresens. Marx n'a jamais fait de proposition articulée, précise, élaborée sur comment devrait être une autre société. En fait, fondamentalement, c'est un critique du capitalisme. Donc tout ce qu'il a écrit sont vraiment des éléments qui sont des éléments basés sur l'analyse de la société dans laquelle il vit et qu'il critique effectivement férocement. Alors, en réalité, il y a une phrase qui aussi est souvent citée, qui est extraite de l'idéologie allemande, où il parle du communisme qui est, dans son esprit, le mode de production qui devrait être celui dans lequel la société se retrouve après la fin du capitalisme. Et comment est-ce qu'il le définit? Alors, je vous rends attentif à cette phrase-là, qui est quand même tout à fait étonnante. Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes. Point. Et on passe à autre chose. Je veux dire, ça dit un certain nombre de choses, mais de là en faire une prophétie ou quelque chose de messianique, je trouve qu'il y a vraiment un malentendu qui, à mon sens, est un malentendu majeur. Alors, je trouve que quelqu'un qui a très très bien expliqué ça, c'est Bertolt Brecht. Alors, vous verrez que je me sers un peu de citations différentes. Brecht a écrit un très très chouette bouquin qui s'appelle « Le livre des retournements », qui est un livre qui est présenté comme des discussions entre sages chinois. Il connaissait pas mal la philosophie chinoise Brecht, et il propose... Alors, Camus, c'est Karl Marx, hein, mais avec le nom qui est transformé de manière à sonner un tout petit peu chinois. Camus disait aux travailleurs, « Gardez-vous des gens qui vous prêchent que vous devriez réaliser le grand ordre. Ce sont des curés. Ils lisent une fois de plus dans les astres ce que vous devez faire. Pour le moment, vous êtes là pour le grand désordre. Ensuite, vous devez être là pour le grand ordre. En réalité, il s'agit pour vous de mettre de l'ordre dans vos affaires. Ce faisant, vous créerez le grand ordre. Les mauvaises expériences que vous avez faites avec le grand désordre peuvent vous servir de guide, ainsi que quelques expériences de nature plus agréable, faites par vos pareils lors de certains soulèvements. Mais il sera bon que vous n'arrangiez pas à l'avance, dans votre tête, jusqu'au plus infime détail, une demeure qu'il s'agirait ensuite de réaliser. Réservez-vous plutôt le plus possible. Dans la préparation d'un plan, on est plus facilement en désaccord que dans l'exécution, et dans l'exécution, des idées viennent mieux que dans la préparation. Gardez-vous de devenir les serviteurs de conception idéale. Sinon, vous aurez vite fait d'être les serviteurs de curé. Alors, ok, je trouve le texte de Brecht tout à fait fidèle à l'idée qu'on peut se faire de la manière dont Marx posait les problèmes, mais il n'est pas gratuit. En réalité, c'est exactement ce qui s'est passé après la Commune de Paris. Après la Commune de Paris, je vous disais tout à l'heure que je reviendrai sur cette intervention, la Commune de Paris est gouvernée pendant 2 mois. Et elle est gouvernée par des gens qui sont mais ni de près ni de loin des marxistes. En fait, la composition politique des élus à la Commune de Paris est assez étonnante. La majorité sont des nostalgiques de Robespierre. Donc, je pense qu'il y avait environ 70 conseillers qui ont été élus à la Commune de Paris. Là-dessus, il y a une quarantaine de robespierristes. Donc, ce sont des militants, mais qui voient l'évolution politique en fonction, en se référant à ce qui s'est passé en 1793, pour être précis. Donc, pendant la période de la Commune de Paris, justement, celle de 1793. Ça, c'est la majorité. Alors, il y a une minorité importante de proudhoniens, et 2 représentants de l'international qui sont plutôt proches des anarches. Et c'est tout. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas, parmi les élus à la Commune de Paris, un peut-être, qui est Frankel, mais les autres n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec les idées développées par Marx. Et n'empêche, Marx écrit la guerre civile en France et analyse et rend hommage aux communards en disant « Mais voilà, vous voulez un programme ?» Regardez ce que la Commune de Paris a réalisé. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, en disant l'instruction gratuite, les élus révocables et à tout moment, le peuple en armes, pas d'armée professionnelle, l'égalité des femmes. Et si vous voulez, il prend vraiment comme programme le seul élément qu'il met en avant comme programme à réaliser, le seul exemple qu'il donne, c'est quels sont les décrets qui ont été pris par les élus de la Commune de Paris. Et donc, je vous dis, là-dedans, il n'y a pas un marxiste. Il n'y a personne qui se prétend marxiste. C'est plutôt politiquement des gens qu'il a combattus pendant l'histoire de l'Internationale. OK. Donc, on a vraiment, effectivement, je crois, à propos de Marx comme prophète ou du caractère messianique de Marx ou du marxisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de raison historique que ça soit apparu comme tel, mais pas... Donc, je voudrais pas être mal compris. Je pense qu'effectivement, dans le développement de l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste fin 19e, du mouvement communiste au 20e, il y a évidemment des raisons qui font que cette image-là du marxisme est devenue une image tout à fait importante. Mais pas chez Marx lui-même. Ça, je pense que c'est vraiment un malentendu majeur. Alors, petite digression aussi que je trouve intéressante. J'ai aussi pensé à cause de la représentation théâtrale. Vous connaissez peut-être la citation habituelle sur l'opium du peuple. Elle est importante, si vous voulez, de la resituer en complet. En fait, je ne vais pas la relire en entier, mais la détresse religieuse est pour une part l'expression de la détresse réelle et pour une autre la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. En fait, évidemment, si on isole la toute dernière phrase, elle est l'opium du peuple, je pense qu'on tord un tout petit peu la signification de la citation complète. Ou alors, on comprend l'opium dans le sens où on donne de la morphine à des malades, éventuellement, hein, donc dans un double sens. Mais clairement, si vous voulez, je crois que ceci est une clé de la manière dont Marx se situe par rapport à la religion. Il est matérialiste, ça, il l'a assez affirmé à différentes reprises. Et clairement, la religion n'exprime évidemment pas pour lui la réalité du monde. Mais en même temps, comme il le dit, elle est le soupir de la créature opprimée. Et il n'a pas envie d'empêcher la créature opprimée de s'exprimer. Donc, si vous voulez, dans sa manière d'envisager les choses, il n'y a pas au premier plan, si vous voulez, la nécessité de la lutte contre la religion, de la même manière que, par exemple, elle est affirmée par Bakounine. OK. Alors, la philosophie de Marx, c'est le dernier point que je voudrais discuter peut-être un peu plus longuement. Où est-ce qu'il faut aller la chercher? Comment est-ce qu'on peut essayer de s'y retrouver dans les questions strictement philosophiques? Alors, contrairement à ce que je vous ai proposé à propos de l'introduction, de la préface à l'introduction, etc., etc., qui est une synthèse sur la manière dont il voit l'histoire, ça existe. Donc, on peut trouver qu'elle va trop vite, on va rediscuter là-dessus par la suite, qu'elle est peut-être trop lapidaire, mais elle existe. Par contre, sur le plan philosophique, il n'y a rien. Et c'est évidemment pour ça que, par exemple, les thèses sur Feuerbach ont été tellement discutées. Parce que ça, il a écrit comme un petit pense-bête, donc ça, au moins, c'est écrit. Et donc, là, on peut s'appuyer sur ce qu'il a écrit. Mais en réalité, la philosophie de Marx dans ses écrits, explicitement, elle est introuvable, littéralement introuvable. Il écrit, en fait, dans la conjoncture. Alors, donc, je vous ai dit... Il y a la préface qui est très courte, dans laquelle on peut trouver des éléments de philosophie, les thèses, l'idéologie allemande qui n'est pas publiée, et tant qu'à chercher des illustrations, je vous ai dit, le livre des retournements de Brecht, il y a aussi une très jolie citation, Rowe, c'est un ça c'est pas Marx lui-même, demanda, veux-tu parler des livres? La philosophie est-elle le produit de la pensée et se trouve-t-elle dans les livres? Métis répondit, Métis et Brecht lui-même. Non, nous négligerons la philosophie et nous parlerons de la pratique philosophique. C'est une chose qu'on voit faire aux gens et nous voulons partir du peuple. Le peuple dit, un tel est philosophe, il est mort en philosophe, il parle à sa femme en philosophe, son attitude à l'égard de l'État est d'un philosophe. En fait, si vous voulez, c'est assez en accord avec les interprétations les plus radicales de la 11e thèse sur Feuerbach, celle qui consiste à dire « les philosophes se sont contentés d'interpréter le monde, maintenant il s'agit de le transformer ». En particulier, si vous voulez, il y a eu un bouquin qui a aussi eu son heure de célébrité, qui est le bouquin écrit par Georges Labica, qui était « Le statut marxiste de la philosophie ». Alors, vous entendez bien, c'est pas le statut de la philosophie marxiste, c'est le statut marxiste de la philosophie. Et donc, Labica dit, en fait... la 11e thèse sur Feuerbach, celle que je viens de citer, elle termine la philosophie pour Marx. Peut-être pas dans l'absolu, mais pour Marx, elle termine la philosophie. Maintenant, on a assez parlé de ce genre de choses, et c'est dans la pratique qu'il faut effectivement réaliser des interventions de type philosophique. Alors en fait, dans son petit bouquin que je vous ai déjà cité, Balibar nuance, il dit en réalité, la 11e thèse déplace les questions. Donc il reconnaît le caractère tout à fait important de cette 11e thèse sur Feuerbach, mais il dit en réalité, elle déplace les questions que les philosophes se posaient plutôt que mettre fin à la philosophie. Et en particulier, si vous voulez, il reste toute une série, bon, notamment les questions que j'ai énumérées sur une des pages précédentes, dont on peut dire quand même qu'un certain nombre d'entre elles ont probablement un contenu de type philosophique. Et donc il dit, Balibar nuance, en disant, il déplace les questions, et dans un premier temps, il a très très vite compris, donc ça c'est son opposition à Hegel et à Proudhon, il a très très vite compris que l'histoire avance par son mauvais côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire avance par son mauvais côté? Alors, on peut trouver un texte dans lequel on dit « Les bonnes intentions sont pour peu de choses en histoire. L'histoire progresse par la douleur du négatif, par l'affrontement des intérêts, par la violence des crises et des révolutions. » Donc, ça c'est, si vous voulez, la même idée qui consiste à dire « On n'est pas en train de réaliser un programme qu'on aurait écrit tout à fait à l'avance. » Mais en réalité, Balibar va plus loin que ça en disant « Marx a vite compris que l'histoire progressait par son mauvais côté, mais la question qu'il pose, est-ce qu'il ne faut pas dire plutôt que l'histoire progresse éventuellement ou avance du mauvais côté ? Donc c'est pas la même. Enfin, peut-être c'est pas un jeu de mots que je suis en train de faire. Hein. Donc par son mauvais côté, c'est en s'appuyant sur des événements qui ne sont pas des événements nécessairement souhaités ou souhaitables, des violences et des choses de ce genre-là. Mais ok, mais il en sort un mieux. Du mauvais côté, c'est éventuellement qu'elle fasse le contraire de progresser. C'est éventuellement ça la question qu'on peut poser aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'histoire progresserait du mauvais côté? Et donc, évidemment, ce qu'on a en tête par rapport à ça, c'est non pas les phases révolutionnaires de 48 ou 71, mais leur aboutissement, leur défaite, en disant finalement, est-ce que après 48 ou après 71, on ne peut pas dire qu'en effet, on a vraiment vécu une régression de ce que on pourrait appeler l'évolution de l'histoire. Donc, cette question-là est une question tout à fait importante, et elle revient, si vous voulez, sur... Donc, quand je dis les questions politiques, je voulais revenir là-dessus. En fait, il y a un passage qui est relevé par Balibar, donc je ne vais pas m'attribuer les plumes du pain. Il est relevé par Balibar et que je trouve tout à fait intéressant. C'est une discussion qui a lieu en 1877 avec les populistes russes. Alors, en 1877, les populistes russes, qui ont beaucoup de discussions entre eux, c'est un peu après l'abolition du servage, ou c'est à peu près au moment où, en Russie, le tsar décide d'abolir le servage. Et donc, il y a une grande discussion entre les populistes, les socialistes, les anarchistes, tout ça n'est pas très bien défini, enfin, dans les milieux d'opposants en Russie. Et la question qui est posée, et qui restera d'ailleurs posée pendant tout un moment, c'est est-ce que les structures particulières de la société russe permettraient de faire l'économie du capitalisme? Donc, clairement, on sort d'une société féodale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on saute au-dessus du capitalisme pour arriver vers un développement de type communiste? Alors clairement, si on prend l'enchaînement linéaire proposé, comme je vous ai dit tout à l'heure, en disant donc ok, les contradictions, à un moment donné, les rapports de production deviennent contradictoires par rapport à la nécessité de continuer à développer les forces productives, et donc typiquement, si vous voulez, la sortie de la féodalité russe, c'est le capitalisme, et l'étape suivante viendra à son heure et pas plus tôt. Je dirais, c'est la position marxiste standard. En tout cas, ce qu'on dirait aujourd'hui être la position marxiste standard, avec les stades d'évolution qui sont les uns derrière les autres, où on doit attendre, si vous voulez, que les contradictions mûrissent ou quelque chose de ce genre-là. Alors, Marx a du mal, hein, parce que il répond une première fois à Mikhaïlovski, et puis une seconde fois, une lettre dont on a retrouvé quatre brouillons, tellement il a eu du mal à la rédiger, et probablement parce que ça lui allait assez loin, une lettre écrite à Vera Zasulich, qui était une des autres populistes de l'époque. Et voilà ce qu'il écrit. Donc, paradoxalement, Marx donne un appui aux populistes contre ceux qui se revendiquent de sa propre pensée. Et il écrit « C'est trop pour mon critique, il faut absolument métamorphoser mon esquisse de la genèse du capitalisme dans l'Europe occidentale en une théorie historico-philosophique de la marche générale, fatalement imposée à tous les peuples, quelles que soient les circonstances historiques où ils se trouvent placés, pour arriver en dernier lieu à cette formation économique qui assurera, avec le plus grand essor du pouvoir productif du travail social, le développement le plus intégral de l'homme. Mais je lui demande pardon. C'est me faire en même temps trop d'honneur et trop de honte. Des événements d'une analogie frappante, mais se passant dans des milieux historiques différents, amenèrent ces résultats tout à fait disparates. Le développement ou non du salariat, c'était ça qui était discuté. En étudiant chacune de ces évolutions à part, et en les comparant ensuite, on trouvera facilement la clé de ce phénomène, mais on n'y arrivera jamais avec le passe-partout d'une théorie historico-philosophique générale dont la suprême vertu consiste à être supra-historique. Donc clairement, il dit, n'allez pas chercher une espèce de théorie générale qui vous permette de dire comment la société va évoluer. Et à Verazasulic, il est encore un peu plus précis, ça vient à peu près un an plus tard, la commune rurale, donc c'était ça le nœud de la discussion, c'était, si vous voulez, il y avait des formes d'organisation sociale dans les communes rurales russes qui étaient assez communautaires. La commune rurale abrite une contradiction latente entre l'économie non marchande et la production pour le marché, qui a toute chance d'être aggravée et exploitée par l'État et le système capitaliste et conduira à sa dissolution, c'est-à-dire à la transformation de certains paysans en entrepreneurs et des autres en prolétariat agricole ou industriel, si le processus n'est pas interrompu. Alors, j'ai pas souligné en rouge, mais j'aurais dû. Si le processus n'est pas interrompu. Pour sauver la commune russe, il faut une révolution. Donc, si vous voulez, il dit clairement, si on laisse aller les choses, évidemment que c'est ça qui va se produire. Mais peut-être qu'il y a moyen d'intervenir pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc clairement, si vous voulez, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand Marx dit « je ne suis pas marxiste », c'est évidemment des interventions comme celle-ci qu'il faut mettre en parallèle pour comprendre comment il fonctionne. Alors, la même idée est reprise par Engels avec l'idée de dernière instance, ça c'est beaucoup plus tard. C'est dans une lettre à Bloch en 1890. D'après la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant est en dernière instance la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx ni moi n'avons jamais affirmé davantage. Si quelqu'un dénature cette position en ce sens que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase abstraite, vide, abstraite et absurde. OK. Donc c'est un peu la même idée, si vous voulez, avec une vraie difficulté à l'origine de tous les torrents d'encre dont je vous ai parlé, qui est mais comment est-ce qu'on cerne bien cette idée de dernière instance, en fin de compte. Alors, la seconde digression que je voulais faire, oui, je crois que je suis à peu près dans les temps, c'est Marx et Darwin, parce que je pense qu'en réalité, elle mérite d'être faite. Alors, il y a des choses qu'on sait, d'autres qu'on sait un peu moins bien. D'une part, Marx avait beaucoup, beaucoup d'admiration pour Darwin. Il y a d'ailleurs un épisode qui est tout à fait révélateur à ce sujet. Au moment où il a envisagé, il ne l'a finalement pas fait, hein, je vous l'ai dit, mais au moment où il a envisagé la publication du second tome du Capital, il a écrit à Darwin pour lui proposer de lui dédicacer. Alors, c'est pas très clair, il y a un doute quant au fait, est-ce que Darwin aurait vraiment refusé? On peut imaginer qu'il ait refusé, parce que quand même, Marx, ça sentait le soufre, et il faut quand même se souvenir que une des grosses difficultés de Darwin, c'était ses rapports avec sa femme, qui était très croyante, et il a jamais osé dire à sa femme qu'il était athée, Darwin. Donc on comprend donc, si vous voulez, que apparaître comme celui à qui on dédicace le Capital de Karl Marx soit dédicacé, c'était quelque chose qui était assez voyant en ce moment-là. Hein. Donc, ça c'est un aspect. Et puis par ailleurs, si vous voulez, il y a le fait que, par ailleurs, aussi on trouve dans une lettre écrite à Engels des critiques à l'égard de l'œuvre de Darwin. Et les critiques sont assez précises. Il est curieux de voir comment Darwin retrouve chez les bêtes et les végétaux sa société anglaise avec la division du travail, la concurrence, l'ouverture de nouveaux marchés, les inventions et la lutte pour la vie de Malthus. C'est la bellum omnium contra omnes de Hobbes. Donc ça, c'est une critique qui est effectivement une critique relativement forte, mais qui ne porte évidemment pas, si vous lisez ceci, sur le contenu de la théorie de l'évolution de Darwin. Hein. C'est éventuellement les références à Malthus qui se trouvent dedans, que Marx n'apprécie pas, ou des choses de ce genre-là. Alors, dernier élément, plus ou moins factuel aussi, que je trouve presque touchant. Quand Marx est mort, en 83, au cimetière, Il n'y avait pas beaucoup de monde. Dans le texte que j'ai lu, on dit que c'est comme pour Mozart. Bon, soit, enfin, je ne sais pas si la comparaison a beaucoup de valeur, mais donc il y avait Engels, il y avait Jenny, Jenny était morte, la femme, donc c'est une erreur que j'ai notée là. Donc il y avait deux filles de Marx, une autre était morte, il y avait Longuet, Lafargue, ses deux gendres. Alors, des vieux complices qui étaient Liebknecht, Friedrich Lesner, donc des militants du mouvement ouvrier allemand. Et alors, une personne qui apparaît vraiment comme incongrue, si vous voulez, dans ce contexte de très, très marqué militant, qui est Edwin Ray Lankester, qui est relativement jeune à ce moment-là encore, qui est un éminent biologiste britannique, qui est un darwinien, et qui était devenu un ami personnel de Marx, bien qu'il ait lui-même le profil d'un grand bourgeois. Et en fait, pendant toutes ces dernières années, Marx l'avait rencontré très, très régulièrement et ils avaient poursuivi beaucoup, beaucoup de discussions sur la théorie de l'évolution et des choses de ce genre-là. Donc c'est une seule personne qui apparaît, si vous voulez, comme détachée de tout le contexte politique du restant, qui était... Il y avait un darwinien, là aussi. Alors, ça ne veut pas dire plus que ce que je dis ici, mais moi, je dois dire, je suis assez d'accord avec les conclusions d'une thèse que j'ai eue en main, qui est la thèse de Flavien Robert de Villers, qui a été défendue à Paris en 1999, qui dresse vraiment un parallèle majeur entre la manière dont lui comprend, dont il pense qu'il faut... C'est un élève de Balibar aussi, hein, Flavien Robert de Villers. La manière dont il faut comprendre l'enchaînement historique des modes de production chez Marx et l'évolution des espèces chez Darwin, en disant vraiment qu'il y a quelque chose de tout à fait commun entre les deux. Et je dois dire, moi, personnellement, je suis convaincu de ça aussi. C'est la même conception de l'évolution. Donc ça, le passage que je lis ici, ça vient de cette thèse. Hein. C'est la même conception de l'évolution, de la nouveauté, du rapport du présent au passé qui est à l'œuvre chez Darwin et chez Marx. À partir d'ancêtres communs, le mécanisme de la sélection naturelle ouvre le faisceau des possibles, multiplie les variétés et les espèces. Chaque possible présent n'est que l'un de ceux qui ont été réalisés à partir de la souche commune. L'homme n'était pas le seul avenir possible du singe. Aucune espèce présente ne peut être considérée comme le résultat nécessaire du développement d'espèces antérieures. Entre l'espèce présente et ses ancêtres, il y a eu maintes bifurcations vers la formation d'autres espèces à partir des mêmes ancêtres, et aussi nombre de hasards et d'extinctions. Mais dans la nature comme dans l'histoire, il n'y a pas une infinité de possibles, seulement un faisceau de possibles. De même que chez Marx, un nouveau mode de production s'édifie sur les décombres de sociétés disparues, lesquelles lui imposent des contraintes dans sa construction et dans son évolution. Alors, quand je dis qu'il y a un parallèle entre les deux, si vous voulez, je pense qu'en effet, il y a un facteur aléatoire dans l'évolution de Darwin, qui est la manière dont les mutations génétiques se produisent. Et il n'y a pas de lien de cause à effet, si vous voulez, entre l'apparition d'une mutation sous un effet physico-chimique qui n'a rien à voir avec le monde vivant. Enfin, je ne sais pas, moi, par exemple, quand des cellules sont exposées à un rayonnement ionisant, à des rayons X, c'est pas directement lié à l'évolution, mais ça a des conséquences sur l'évolution parce que ça provoque des mutations. Et donc, il y a, si vous voulez, par rapport à ces mutations qui apparaissent au hasard, c'est ça l'idée de l'évolution darwinienne, il y a une sélection qui est opérée par les conditions sociales, par les conditions, si vous voulez, naturelles, pardon, par les conditions naturelles qui font que, finalement, des espèces se stabilisent et qu'il y a une évolution qui se produit de cette manière-là. Il y a un peu la même idée, si vous voulez, en disant... les interventions politiques du genre de celles que Marx citait à propos des populistes russes peuvent effectivement, à un moment donné, introduire une bifurcation dans une évolution sociale. Mais, en réalité, toutes les espèces ne sont pas possibles. Donc, si vous voulez, c'est l'idée qu'en effet, il y a bien une succession de stades, une succession d'espèces qui peuvent apparaître naturellement en biologie, et de la même manière, si vous voulez, les sociétés. Mais il n'y a pas d'enchaînement inéluctable qui permettrait de dire qu'il y a une filière qui va à travers tout ça. Donc je pense que, enfin, personnellement, moi je suis vraiment convaincu que le parallèle proposé dans cette thèse est un parallèle qui, moi, me convainc. Alors évidemment, il reste derrière ça l'autre volet, qui est l'idée de progrès. Alors l'idée de progrès, évidemment, et surtout celle de son caractère inéluctable, elle est vachement mise à mal aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, il faut quand même savoir que ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce n'est pas seulement dans le contexte, par exemple, écologiste actuel, que cette idée est mise à mal. Elle a au moins deux antécédents, je dirais, à l'intérieur de la famille marxiste à faire valoir. Le premier, c'est Gramsci, qui a écrit... Donc Gramsci, un des fondateurs du Parti communiste italien, qui a été liquidé en prison par Mussolini. très actif dans les tentatives révolutionnaires qui ont suivi la guerre de 14 à Turin. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelait « La révolution contre le capital ». C'est évidemment en partie un jeu de mots, si on pense au capital comme structure sociale, mais il y a aussi peut-être une petite pique contre le caractère inéluctable des modalités qu'on pourrait déduire des contraintes de politique économique ou d'économie politique qu'on pourrait aller trouver dans le capital. Et donc ce qu'il dit, lui, c'est dans les cahiers de prison, l'économicisme de la deuxième et de la troisième internationale, il ne fait pas la différence, donc la deuxième, c'est celle fondée, l'internationale socialiste fondée par notamment Engels, Liebknecht en 89, et puis la troisième par Lénine, est un fatalisme au moyen duquel les travailleurs et leurs organisations se forgent une vision du monde subalterne qui fait de l'émancipation la conséquence inévitable du développement des techniques. Et donc, Gramsci refuse. L'autre référence qu'on peut faire qui est intéressante aussi, c'est Walter Benjamin, qui lui était un communiste allemand un peu déviant et qui s'est suicidé en 40. L'historicisme marxiste serait la tentative, vaine par définition, de reprendre au compte des opprimés la vision continue et cumulative, caractéristique des dominants ou des vainqueurs, assurés de nager dans le sens du courant. Donc, effectivement, si vous voulez, l'idée, évidemment, que l'idée du progrès était une idée profondément ancrée chez Marx, celle-là, elle est incontestable. Je veux dire, là, je vais continuer à faire des citations et je vais arrivé à Balibar. Balibar écrit ceci, en parlant de Marx donc. Hein. C'est lui par excellence qui a perpétué l'idée que ceux d'en bas jouent un rôle actif dans l'histoire en se propulsant eux-mêmes et en la propulsant l'histoire, je veux dire, vers le haut. Dans la mesure où l'idée de progrès inclut plus qu'une espérance, une certitude anticipée, cette représentation lui est tout à fait indispensable et on ne comprendrait rien à l'histoire du XXe siècle si on en faisait abstraction. Ça, c'est la première idée. Et donc, si vous voulez, elle me paraît tout à fait importante, parce que c'est vrai que, je vous ai dit tout à l'heure, en lisant quelques citations à propos de l'écologie, on peut s'amuser à aller trouver des références de ce genre-là chez Marx, et elles, probablement, elles auraient pu être développées. Mais, fondamentalement, Marx est un homme des Lumières. C'est vraiment quelqu'un dont le cadre de pensée général est profondément imprégné par l'idée du progrès comme elle a été développée au XVIIIe siècle. Alors évidemment, il a apporté pas mal de nouveautés dont j'ai essayé de vous rendre compte, mais fondamentalement, il est dans ce contexte-là. Et donc, si on essaye d'éliminer l'idée du progrès, alors là, effectivement, on tombe complètement à côté. Donc, effectivement, c'est important. C'est plus qu'une... J'aime bien cette formule. Hein. L'idée de progrès est plus qu'une espérance, c'est une certitude anticipée. Je pense qu'en effet, dans le contexte en particulier du mouvement ouvrier de la fin du 19e, c'est une formule qui est tout à fait juste. Alors, deuxième conclusion, toujours du Balibar, mais que je fais mienne. Pourquoi Marx n'a-t-il pas élaboré de doctrine? Donc, ça va plus loin, si vous voulez, que simplement l'idée, on ne trouve pas de livre philosophique. Balibar dit, il n'y a pas de livre philosophique et il n'y a pas de doctrine de Marx. Pourquoi Marx n'a-t-il pas élaboré de doctrine? Parce que la rectification allait toujours trop vite et qu'il s'est retrouvé coincé entre deux exigences éthiques fortes. Trop théoricien pour bâcler ses conclusions, trop révolutionnaire face aux catastrophes, 48-71, face aux catastrophes, pour poursuivre comme si de rien n'était, si bien qu'il est légitime d'interpréter les silences de Marx et de prendre pied dans ses problématiques. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais je pense en effet que le fait qu'il n'y ait pas de... Donc, la difficulté de terminer le Capital, ça, c'est pas des textes philosophiques, mais ça va dans le même sens. Et c'est évidemment ce qui justifie le titre que moi, j'ai choisi pour l'exposé d'aujourd'hui, qui est « Entre science et révolution », dans ce sens-là. Si vous voulez, il a construit une économie politique dont le caractère était évidemment tout à fait rigoureux. Il a essayé, tant bien que mal, de l'utiliser pour comprendre les évolutions sociopolitiques de son histoire, et de temps en temps, il y avait des clashs. Et face aux clashs, il était mis en difficulté, mais il faut quand même lui laisser qu'il reconnaissait ces difficultés, comme le témoignage dont je vous ai fait part à propos des populistes russes le montre. Alors, je termine en montrant, si vous voulez, quelques petites... Ça, c'est presque pour le GAC. Enfin, pour le GAC. Pour vous montrer, si vous voulez, effectivement, le caractère plus ou moins messianique, comment il peut avoir été mis en avant. Ça, c'est une production d'un tableau de Diego Rivera. Alors, drapeau rouge. Marx est... Marx est au-dessus, à droite. Et le monsieur avec les lunettes au milieu, c'est Trotsky. Donc ça, c'est... Donc Rivera, c'est un des grands muralistes. C'est Monsieur Callot, hein. Enfin, donc c'est un exemple. Alors, celle-ci, je la trouve aussi tout à fait amusante. Ça, je l'ai connue d'assez près. C'est une affiche qui a été éditée. Et vous savez, peut-être pour Private Joke, l'éditeur responsable, c'était Jacques Teguem, qui n'est plus prof en politique aujourd'hui et que je trouve assez amusante. Marx avec une tétine, le communisme et l'enfance du monde. Alors ça, c'est aussi tout à fait amusant dans le même genre. C'est une espèce de tentative d'accumuler des noms qui, d'une manière ou d'une autre, ont été influencés ou touchés par Marx. Alors, ne me faites pas dire, si vous voulez, que vraiment, il y a là-dedans tout... Mao et Castro, évidemment, oui. Tito aussi. Par contre, Prokofiev, ça me paraît moins évident. Zapata, ça me paraît moins évident aussi. De Gaulle, ça me paraît... Donc, c'est une espèce de paquet, mais qui est tout aussi globalisant, si vous voulez, que les tentatives de Marx pour rendre compte. À moins qu'on doive se dire que la véritable descendance, elle est plutôt de ce côté-ci. Voilà. Merci.
Je remercie beaucoup Pierre-Julis de nous avoir donné un portrait si varié et divers de Marx et avec autant d'humour, d'entrain et de réflexion en même temps. Et je vous cède immédiatement la parole pour des questions, des remarques, des discussions.
Bonsoir, monsieur. Vous dites que Marx n'a pas élaboré de doctrine, mais il a été un inspirateur.
Oui.
Et quel inspirateur ? Est-ce que vous considérez pour autant que Marx n'a rien à voir dans ce qui s'est passé, par exemple, en Union soviétique, en Chine, les Khmers rouges, Pol Pot, et les dizaines de millions de morts, à la fois, surtout au XXe siècle, évidemment.
Je prends plusieurs questions ou je réponds tout de suite? Alors, moi, j'ai tendance à dire, en effet, que... Enfin, ma première réaction est, il n'a rien à voir, et en même temps, c'est pas juste. Donc, certainement... Tout l'exposé que je vous ai fait, c'est pour vous montrer qu'en effet, il n'y a pas de programme. Et que donc, dire on a réalisé un programme au nom de Marx, c'est largement une imposture. Donc, ça c'est facile à dire. Maintenant, en effet, quand on voit, si vous voulez, par exemple, la manière dont Marx lui-même, à propos d'un des textes qu'il a rédigé pour l'International, écrit une lettre à Engels. Il y a des accents qui sont plus programmatiques ou plus moraux, disons. Et il s'en excuse auprès d'Engels en disant « Oui, mais je les ai mis quand même parce que tout le monde voulait qu'on les mette. » Parce que les militants qui étaient là avaient envie qu'il y ait comme certaines des formules du manifeste. Et donc, évidemment, dans une certaine mesure, quand Marx dit, par exemple, que l'histoire avance par sa violence... C'est évidemment, c'est pas une justification des violences, mais c'est une manière de dire, en effet, les violences, elles existent. Et donc, si on prend, par exemple, toute l'histoire de... on peut presque dire aussi, c'est une thèse qui a été développée. En fait, Lénine, il a, dans une certaine mesure, fait ce que Marx avait suggéré par rapport aux populistes. C'est-à-dire, la même discussion, si vous voulez, qui avait eu lieu entre Marx et les populistes, elle a rebondi à peu près dans les mêmes termes entre 1905 et 1917, entre les mencheviks et les bolcheviks. Et les mencheviks étaient plutôt du côté de la position dite marxiste traditionnelle, en disant il faut permettre le développement du capitalisme et avancer dans ce sens-là. Et Lénine a dit non, on peut avancer beaucoup plus vite, et notamment en distribuant la terre aux paysans comme ils l'ont fait en 1917. Et donc, il y a des éléments, si vous voulez, qui renvoient. Mais je dirais, pour moi, l'attribution de la responsabilité politique de crimes majeurs comme ceux du stalinisme ou comme ceux de Pol Pot à Marx, c'est un abus. Je pense vraiment que c'est un abus. Mais il y a, donc je dis c'est un abus, mais en même temps, clairement, la filiation existe. Donc, mais il y a des filiations qui existent et qui sont abusives. Enfin, je trouve la réponse pas si facile que ça à donner, hein. Mais c'est clair que moi j'ai tendance à dire aujourd'hui, on peut retourner à Marx et lire Marx. C'est relativement, enfin c'est facile. Enfin, je veux dire, il faut se plonger dedans et il faut essayer de comprendre vraiment ce qu'il a raconté, ce qu'il a voulu dire, même dans ses, entre les lignes éventuellement. En réalité, il y a eu toute une période où c'était pas possible. Donc, à partir du moment, pendant toute la période, je dirais, il y a eu deux périodes où c'était relativement difficile. À l'époque de la fondation, au tournant du XXe siècle, pas pour les mêmes raisons, fin XIXe, début XXe, les socialistes allemands étaient tout à fait sur la longueur d'onde. Ils avaient développé, si vous voulez, une vulgate. Donc des gens comme Kautsky, par exemple, avaient développé une vulgate qui était vraiment très répandue, mais répandue massivement à l'intérieur du mouvement ouvrier. Et donc, clairement, finalement, cette vulgate avait plus d'importance que ce que Marx avait écrit lui-même. Et il y a évidemment eu la même chose à l'époque du mouvement communiste, où, je sais pas moi, par exemple, les principes du léninisme, du marxisme-léninisme rédigés par Staline en 1938 ont finalement eu en pratique beaucoup plus d'importance que tous les écrits de Marx. Alors, c'est facile aujourd'hui de montrer, si vous voulez, où sont les impostures, par exemple, dans le texte de 1938. Mais n'empêche qu'il a joué un rôle historique important. Donc, c'est pour ça que je dis que la filiation est en même temps réelle et abusive.
J'ai envie de poser une question qui est peut-être de nature sur les fondements économiques de la théorie de l'analyse du capital de Karl Marx. C'est, si je crois bien me souvenir, peut-être que je me trompe, hein, si vous me le dire, c'est le profit du système capitaliste s'acquiert, revient essentiellement sur le travail de l'homme. Donc, l'idée, c'est que si on remplace l'homme par des machines, bon, le capitalisme va devoir s'effondrer. Est-ce que ça reste bien une idée correcte ou non?
Mais, en fait, certainement au départ. Donc, d'abord, première idée, en économie politique, là aussi, Marx ne tombe pas du ciel, évidemment, et il y a un antécédent qu'il a lui-même très fort utilisé, qui est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais qui est Ricardo. Et donc Ricardo, effectivement, est le premier qui a expliqué, dans une large mesure, la différence entre valeur d'échange et valeur d'usage, et donc notamment en disant, fondamentalement, c'est le travail qui est exploité et qui fournit le profit. Alors évidemment, quand on parle des machines, il faut évidemment se dire que les machines elles-mêmes ont été construites, et donc bien entendu, on définit la valeur des machines aussi par le travail qui a été nécessaire pour les faire. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que, dans un avenir plus ou moins proche, vraiment, les machines soient construites sans aucun travail derrière? Moi, ça me paraît une vision sans fondement, quoi. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est qu'en effet, il faut intégrer dans la valeur d'un objet, que ce soit une machine ou un objet qu'on met sur le marché, le travail qui a été nécessaire pour le réaliser. Alors, lui-même, comment est-ce qu'on estime le travail? Ben, le travail, il a une valeur d'échange qui est déterminée par la nécessité pour les travailleurs de vivre, donc de manger, d'habiter, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il y a derrière. Mais donc, la limite, en disant, comment est-ce qu'on pourrait imaginer une société ou un mode de fonctionnement dans lequel il n'y ait que les machines? Enfin, probablement qu'à ce moment-là, à un moment donné, les questions de type d'où vient l'énergie deviennent tout à fait importantes et les questions de type écologique doivent être mises en balance. Ça, c'est pas du tout dans Marx. Enfin, je dis, il n'y a pas de développement de ce genre-là. Mais je ne vois pas comment on pourrait imaginer aujourd'hui une production Donc la productivité augmente évidemment considérablement, ce qui veut bien entendu dire qu'on a besoin de moins de personnes pour fabriquer les objets qui sont mis sur le marché ou pour fabriquer les machines. Ok, moins, mais on a quand même besoin. Et en fin de compte, c'est vrai que la société s'organise autrement. Donc je ne veux pas non plus jouer les prophètes.
Rendre Marx responsable des excès qui ont été commis dans les États communistes, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose que de rendre Adam Smith responsable des excès commis par le capitalisme et le libéralisme, hein, qui sont le colonialisme, l'esclavagisme, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne pourrait pas retenir de Marx que c'est tout simplement, en éliminant les scories, en élaguant, une méthode d'analyse de la société, beaucoup plus sociologique que politique d'ailleurs, et à ce moment-là, rendre comme Adam Smith dit, voilà, c'est un théoricien qui est apparu à un moment où il fallait qu'il apparaisse, et ça c'est un peu marxiste aussi, mais dire que, bon, que Marx est responsable du stalinisme et de tout ce qui s'est passé du maoïsme, dans les mauvais côtés du maoïsme, eh bien, c'est un peu excessif, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le professeur?
Je ne suis pas tout à fait sûr que le parallèle... Enfin, disons, il y a évidemment une différence qui n'est pas un détail. Je ne parle pas seulement du contenu, hein, mais il y a une différence qui n'est pas un détail entre le positionnement d'Adam Smith d'un côté ou de Marx de l'autre. C'est Adam Smith n'a jamais prétendu jouer un rôle politique. Il a éventuellement joué un rôle de conseiller ou des choses de ce genre-là, mais fondamentalement, c'est un économiste qui travaillait dans le cadre de son université et qui faisait une analyse pure. Alors, quand on lit Le Capital, on peut presque dire que c'est sur le même plan. Mais quand même, j'ai passé assez de temps à vous expliquer que Marx avait fondé la Première Internationale, qu'il avait réagi tout à fait fortement à la Commune de Paris. Donc, il était lui-même beaucoup plus... Donc, c'est pour ça que je dis que la filiation existe et qu'en même temps, elle est abusive. Il avait joué un rôle politique qu'il revendiquait. Donc, c'est pas quelqu'un qui se voulait complètement observateur extérieur. D'ailleurs, je reprends la onzième thèse, qui est quand même un élément majeur. Les philosophes jusqu'à présent se sont contentés d'interpréter le monde. Maintenant, il s'agit de le transformer. À ma connaissance, Adam Smith n'a jamais écrit des trucs de ce genre-là, même sous forme de pense-bête. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une implication de Marx dans l'activité politique qu'on ne peut pas effacer. Enfin, je veux dire, ça serait tout à fait réducteur de l'effacer. Et donc, finalement, la question de la filiation... C'est est-ce que... Donc là, moi, j'ai tendance à répondre un peu de la même manière que ce qu'on a fait dans mon parallèle avec Darwin. Est-ce que l'évolution de Marx vers la Deuxième Internationale, et puis vers la Troisième Internationale, et puis vers Mao et Pol Pot, est-ce que tout ce genre de trucs... Enfin, pour moi, il n'y a pas du tout de filiation évidente, hein, mais en tout cas, si on va jusqu'au bout. Mais est-ce qu'elle était inéluctable? Non, certainement pas, si vous voulez. Il y a eu des événements politiques, il y a eu des événements tout à fait majeurs. Et donc, moi, profondément, si vous voulez, je fais un peu une digression, hein, mais j'ai été éditeur d'un article que j'ai trouvé assez intéressant il y a environ 5 ans, qui essayait d'expliquer les terribles dérives et les violences du XXe siècle à partir de 3 événements majeurs. Alors, sur les 3, il y en a 2 sur lesquels, qui font partie, si vous voulez, de ce que n'importe quel journaliste écrirait, le stalinisme et le nazisme, mais les auteurs du papier ajoutaient une troisième, qui est la Première Guerre mondiale. Et effectivement, la Première Guerre mondiale est un facteur... Enfin, chaque fois que je relis ce qui s'est passé, et pour être précis, j'ai même eu des témoignages directs de gens qui ont vécu ces périodes, ça a été un tel déchaînement de violence que pendant la période qui a suivi, l'idée d'être tout à fait violent politiquement, mais en se disant pour éviter ça et pour que ça ne se reproduise plus, était une idée qui apparaissait comme relativement naturelle. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une idée qu'on a du mal à comprendre. Mais après la guerre de 14, l'idée que pour éviter les énormes massacres de la guerre de 14, on pouvait ou on devait être violent, c'est une idée qui était parfaitement répandue et largement légitimée. Donc, il y a des événements de ce genre-là qui ont joué, bon, qui sont effectivement hors contexte aujourd'hui, mais qui permettent de comprendre, je pense, qui permettent de comprendre comment l'histoire a évolué. Et donc, par exemple, pour moi, Pol Pot, c'est des trucs complètement fous, enfin monstrueux, fous et criminels, mais en même temps, on peut comprendre d'où ça vient. Enfin, je veux dire, l'évolution des conflits dans l'Indochine, quand on voit aujourd'hui les détails sur ce qu'ont été la guerre du Vietnam, c'était d'une telle violence pendant les périodes qu'on peut imaginer qu'effectivement, des gens qui étaient engagés dans ce genre de combat ont pu à un moment donné déraper en se disant, allez, nous aussi, quoi. Donc, pour moi, ça c'est. Donc, c'est, de ce côté-là, la filiation avec Marx, elle est pour moi nulle. Sauf des références de type idéologique.
Si personne ne demande plus la parole, je vais remercier encore Pierre Gillis et je vous invite lundi prochain à venir écouter Amandine Leroux qui nous parlera du colonialisme.